Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, je m'appelle Clotilde Say, je suis contente de vous présenter les parts actualités du 13 juin 2017 sur les ondes de Canal M. Les titres aujourd'hui, les climatiseurs personnels dont nous parlions hier, eh bien ils seront permis dans les CHSLD. Loi sur les normes du travail vers la reconnaissance des proches aidants. Plus de 187 000 dollars ont été versés pour le transport adapté sur la côte de Beaupré. Et puis les œuvres de jeunes artistes ayant une déficience intellectuelle présentées au Musée des Beaux-Arts de Montréal. En Ontario, un nouveau programme plus adapté aux besoins des jeunes autistes et à Avranches, en France, une avancée dans l'étude sur la dégénérescence visuelle. Au programme aussi aujourd'hui, deux entrevues, d'abord avec Nathalie Boels, présidente du Conseil d'administration de Spina Bifida et d'Hydrocéphalie Québec au sujet du mois de juin qui est le mois du Spina Bifida et de l'hydrocéphalie. Et puis je vais aussi m'entretenir avec Joanne Lauzon, directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme au sujet de la remise des prix de reconnaissance à des personnes et à des projets qui a eu lieu le 27 mai dernier. Alors après s'être fait rabrouer par le ministre de la Santé, le CIUS du nord de l'île de Montréal fait volte-face et permettra aux bénéficiaires d'utiliser leur propre climatiseur dans les chambres des CHSLD, nous dit ce matin dans le Journal de Québec Nicolas Lachance. Le CIUS du nord de l'île de Montréal revoit sa politique en fonction de l'orientation du ministre, a confirmé Hugo Larouche, le porte-parole du CIUS du nord de l'île de Montréal. Ils pourront avoir leur unité de climatisation personnelle dans leur chambre s'ils le désirent. Le journal rapportait hier lundi que les bénéficiaires des centres d'hébergement et de soins de longue durée avaient reçu un avis du CIUS leur indiquant qu'à l'avenir, ils seraient obligés de louer à un fournisseur un climatiseur au coût de 229 $ par année, un montant quatre fois plus élevé pour certaines personnes qui utilisaient leur propre système. Le fournisseur était également choisi sans appel d'offres. Robert Tremblay, un résident paralysé du CHSLD Notre-Dame de la Merci qui critiquait vertement la décision du CIUS, s'est dit très heureux d'obtenir l'appui du gouvernement. Le ministre ne s'est pas laissé émouvoir par l'explication du CIUS qui avait décidé d'implanter cette directive pour des raisons de propreté et de sécurité. « Moi, je pense que les gens qui s'achètent un climatiseur ou leur famille sont capables de faire un entretien », a-t-il souligné, précisant qu'il s'agissait du milieu de vie des bénéficiaires. « Ils ont le droit de mettre des décorations sur les murs, ils ont le droit d'avoir leur télévision et ils ont le droit d'avoir leur air conditionné, c'est tout », a-t-il ajouté. Dans lapresse.ca, d'après un papier de Jean-Marc Salvet, « Loi sur les normes du travail vers la reconnaissance des proches aidants », le caquiste Marc Picard indique qu'on estime à plus de 1,2 million le nombre de personnes qui s'occupent d'un proche à autonomie restreinte au Québec. 60% d'entre elles sont sur le marché du travail. La ministre du Travail, Dominique Vien, prend acte de l'invitation de la coalition Avenir Québec de reconnaître les proches aidants dans la loi sur les normes du travail. Un tel changement constituerait une petite révolution sociale, selon les associations représentant tous ces Québécois. Le caquiste Marc Picard a présenté mercredi un projet de loi visant à permettre à tout proche aidant de prendre 10 jours de journée de congé par année sans solde afin de fournir des soins ou du soutien à un proche, que ce dernier soit membre ou non de sa famille immédiate. Selon ce projet, la loi sur les normes du travail tiendrait ainsi compte de tout salarié qui n'est pas nécessairement un membre de la famille immédiate de la personne qui requiert des soins. Un voisin ou un ami, par exemple. M. Picard propose que la loi offre à ces Québécois le même répit auquel ont déjà droit les salariés pour remplir leurs obligations parentales ou en raison de l'état de santé d'un membre de leur famille. Il préconise aussi de permettre le fractionnement de ce congé de 10 jours en demi-journée ou en heure si l'employeur y consent. Également de porter de 12 à 17 semaines la période durant laquelle un salarié peut s'absenter du travail sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès de la personne en besoin. La ministre Dominique Vien s'est montrée intéressée par ces propositions, mais elle n'est pas aussi empressée qu'on le voudrait. C'est dans le cadre de la révision de la loi sur les normes du travail que son ministère s'y penchera. Le mois de juin est aussi le mois du spina bifida et hydrocéphalie et on s'est dit ici à Canalem qu'il serait peut-être bon qu'on en sache un petit peu plus sur ces maladies. Voilà pourquoi je vais m'adresser maintenant à Nathalie Boels, j'espère que je prononce bien votre nom, présidente du conseil d'administration de spina bifida et d'hydrocéphalie Québec. Bonjour madame Boels.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est comme ça, très bien prononcé, merci.
Ben, je vous en prie. Alors, écoutez, Nathalie, permettez-moi que je vous appelle ainsi.
Oui.
On voudrait se pencher un petit peu plus sur ces deux maladies que nous connaissons peut-être moins. Commençons peut-être par le spina bifida. Qu'est-ce que le spina bifida exactement?
C'est une malformation congénitale de la colonne vertébrale. Tout se joue dans les trois premières semaines de la grossesse. Le bébé naît avec une plaie dans le dos qui se remarque dès la naissance dans la plupart des cas et va vivre avec différentes séquelles, beaucoup au niveau des jambes. Certaines personnes sont en fauteuil roulant, certaines personnes marchent normalement, certaines personnes vont marcher en boitillant légèrement.
Mm-hmm.
Donc il y a un peu toutes sortes de cas de figure. On n'en guérit pas, alors on parle de conditions plus que de maladies.
Okay.
Les chirurgies qui existent sont plus pour réparer un peu l'appareil locomoteur, des opérations au niveau des jambes, au niveau de la colonne vertébrale, etc. Mais on n'en guérit pas vraiment.
Ok. Et est-ce que la situation peut se détériorer?
Oui, disons que quand l'enfant grandit, surtout quand il est jeune, il y a différentes opérations, par exemple pour corriger l'axe de ses jambes,
oui.
Au niveau de la colonne vertébrale, il y a des problèmes de scoliose souvent.
Oui, oui.
Donc
oui,
c'est sûr que les personnes vieillissent, l'espérance de vie est à peu près la même que les autres personnes.
Oui.
Mais c'est sûr qu'en vieillissant, les personnes vont avoir moins de force dans les bras, donc plus de difficultés par exemple pour celles qui marchent avec des béquilles ou celles qui sont en fauteuil roulant manuel vont peut-être passer en fauteuil roulant électrique, etc. Donc c'est sûr qu'il y a une évolution aussi avec l'âge.
Et l'hydrocéphalie, est-ce que ça a un lien d'abord? Parce que pourquoi le mois de spina bifida et hydrocéphalie Québec et pourquoi un conseil d'administration commun?
Il y a un lien parce qu'il y a 8 personnes sur 10 qui naissent avec le spina bifida qui ont aussi l'hydrocéphalie.
Ah d'accord.
Oui, donc le lien est là. L'hydrocéphalie, c'est un excès de liquide dans la tête. On en fabrique à chaque jour et il s'écoule normalement tout seul dans le corps. Et pour les personnes qui ont l'hydrocéphalie, il y a un obstacle quelque part au niveau du trajet d'évacuation, ce qui fait que l'eau s'accumule dans le cerveau et comprime les cellules du cerveau,
bien
donc
sûr,
amène différentes séquelles aussi.
Et là aussi, on peut rien faire? Est-ce qu'on peut en enlever?
Essentiellement, le traitement le plus courant, parce qu'il y en a un ou deux autres, mais le plus courant, c'est de poser une dérivation qui va contourner l'obstacle, qui part de quelque part dans le cerveau et qui se rend dans l'abdomen pour contourner l'obstacle, pour que le liquide s'écoule normalement.
Et puis à condition, j'imagine, qu'on connaisse la nature de l'obstacle et sa position dans le cerveau.
Oui, effectivement, mais c'est vrai que c'est un traitement qui, je connais pas les chiffres, mais qui s'applique à beaucoup de cas d'hydrocéphalie.
D'accord.
Puis c'est sûr que la dérivation doit être changée souvent, surtout quand l'enfant grandit. Donc là encore, ça amène différentes opérations chirurgicales dans la vie de la personne.
Est-ce qu'il peut y avoir de la prévention?
La prévention du spina bifida, oui,
oui.
Par la consommation d'une multivitamine contenant de l'acide folique.
Ah, ok.
Débuter 3 mois avant la grossesse et continuer 3 mois après. Notre gros défi, c'est de la commencer 3 mois avant. Donc la façon la plus simple d'y penser, c'est que quand on arrête le moyen de contraception qu'on utilisait, si on en utilisait un, c'est de commencer tout de suite l'acide folique. Comme ça, on a plus de chances d'avoir fait assez de réserves d'acide folique quand la conception aura eu lieu et que la grossesse aura démarré.
Alors, votre organisme en tant que tel, quelle est sa mission?
Notre mission, notre objectif principal, c'est que toutes les personnes qui ont l'hydrocéphalie et le spina bifida à travers le Québec vivent une vie riche, enrichissante, à la hauteur de leurs aspirations.
Oui.
Donc, on donne beaucoup d'informations à ces personnes-là. On donne de l'information aussi aux personnes qui s'en occupent, que ce soit des enseignants, des éducateurs en garderie, après ça des professionnels de la santé, travail sociaux aussi souvent. Et puis c'est sûr, principalement aux personnes concernées et à leurs familles aussi.
Oui, bien sûr. Alors, j'imagine que vous avez un site internet très, 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 très fouillé, hein, qui offre beaucoup d'informations. On vous retrouve comment sur la toile?
On a beaucoup d'informations sur notre site internet.
Oui.
C'est www.spina.qc.ca.
D'accord.
Mais je voudrais annoncer que le 20 juin, nous avons une conférence sur Facebook sur
oui.
justement la prévention du spina bifida.
Je voulais que vous m'en parliez. Alors, c'est une conférence qui sera donnée par qui, Mme Boels?
Ça va être donné par Mylène Duplessis-Brochu. Elle est nutritionniste à la Fondation Holo.
Mm-hmm.
Et le thème de sa conférence, ça sera « Parlons prévention du spina bifida et alimentation pour une grossesse et un bébé en santé ».
D'accord.
Donc, c'est un sujet vraiment
Mais
qui
oui.
nous préoccupe, évidemment.
Mais évidemment, hein, puisqu'on vient même d'en parler ensemble il y a quelques minutes. Rappelez-nous la date, c'est le 25 juin?
Donc, c'est le 20 juin.
Le 20 juin?
Le 20 juin à 12h.
À 12h. Et,
oui, les gens peuvent y accéder par notre page Facebook.
OK.
Donc facebook.com/ASBHQ.
ASBHQ
pour Association de spina bifida
bon.
Et hydrocéphalie du Québec.
Sinon, si on va sur votre site, on aura toutes les informations aussi,
oui,
j'imagine.
Oui, c'est clair. Oui, on met l'information sur le plus de plateformes possibles qui sont à notre disposition.
Merci beaucoup, Nathalie Boels, d'avoir répondu à mes questions. J'ai l'impression d'en savoir un petit peu plus aujourd'hui, et les auditeurs aussi, j'imagine. Alors, et puis, bonne chance, puis j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui pourra profiter de cette conférence.
Bien sûr, ça me fait plaisir, et puis j'espère effectivement que beaucoup de personnes pourront se joindre à nous.
D'accord, au revoir.
Merci.
Et bonne journée, salut.
Bonne journée, au revoir.
Plus de 187 000 $ pour le transport adapté sur la côte de Beaupré, nous révèle l'autrevoie.com. C'est Plus Mobile qui va assurer principalement le transport adapté et c'est la députée de Charlevoix-Côte de Beaupré, Caroline Simard, qui en a fait l'annonce au nom du ministre des Transports, Laurent Lessard. Des ajustements s'ajouteront à cette somme à la fin de l'année en fonction du nombre de déplacements réalisés, des modifications au territoire desservi et des déplacements effectués hors du territoire. Sur le site de iciradiocanada.ca, c'est un texte de Marie-France Bélanger qui nous dit que les œuvres de jeunes artistes ayant une déficience intellectuelle sont présentées au Musée des Beaux-Arts. « Waouh !» s'exclame un jeune en regardant une œuvre dans la section art actuel du musée. C'est le début de la visite pour 18 élèves de 12 à 21 ans de cette école de la Commission scolaire de Montréal, la CSDM, qui accueille une clientèle souffrant de déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde. Le petit groupe déambule calmement dans le musée, bavarde un peu, découvre les œuvres choisies et s'exclame par moments à leur contact. J'adore voir leurs réactions, ils réagissent même à l'architecture. Ça me rend encore plus convaincue que le projet est porteur de sens, souligne Louise Giroux, la responsable des programmes éducatifs au musée. Par la suite, dans un local du musée, stimulés par ce qu'ils ont vu, ils créent leurs propres œuvres, qu'ils pourront ensuite terminer à l'école. Au menu, peinture, découpage et collage inspirés de l'artiste Jean-Michel Basquiat. Ses élèves sont venus au musée à 11 reprises au cours de l'année scolaire pour contempler et créer, comme c'est le cas aujourd'hui. Le modus operandi est toujours le même. Coup d'œil à des œuvres sélectionnées pendant une vingtaine de minutes, pause dîner, puis création artistique dirigée. Et au total, ils sont 200 à avoir participé à cette activité depuis ses débuts, il y a 2 ans. C'est Vania Aguiar, la maman de Henri-Louis, 21 ans, inscrit à Irénée Lucier, qui est à l'origine de ce projet, sa fondation baptisée Les Petits Rois, contribue à son financement. En créant cette fondation, je tenais à ce que ces jeunes soient visibles. On n'est plus dans le siècle passé. Il faut être capable d'accepter la différence dans un environnement public. Elle voulait aussi permettre aux élèves de l'école d'intégrer l'art dans leur vie. La plupart d'entre eux ne parlent pas. L'art est un grand moyen d'expression, dit-elle. Des dizaines d'œuvres réalisées par les élèves de l'école Irénée Lucier dans le cadre de ce projet seront présentées cet automne au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ces créations ont pour thème la ville de Montréal, qui fête cette année son 375e anniversaire, rappelons-le. Les élèves passeront donc du statut de visiteur à celui d'exposant. Elle est la directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme, la fédération qui a remis ses prix de reconnaissance à des personnes ou encore à des projets qui favorisent l'intégration de personnes autistes dans des contextes différents comme des contextes scolaires, professionnels et sociaux. Elle s'appelle Joanne Lauzon. Bonjour, Madame Lauzon.
Bonjour.
Alors, ravie de vous parler encore aujourd'hui pour que vous nous parliez de ces prix. Ça fait longtemps que ça existe, ça?
En fait, le premier prix qu'on a créé, c'est en 2006, c'était le prix Peterswack. Uh-huh. On avait nommé ça ici parce qu'on voulait perpétuer la mémoire d'un papa d'enfant autiste qui était, lui, convaincu là, de l'intégration des personnes autistes au travail et que lui-même avait intégré des personnes au travail.
Ah oui, en effet.
Oui, 5 ans plus tard, on a créé le prix Gilbert Leroux, encore une fois pour rendre hommage, cette fois-ci, à un psychologue en milieu scolaire. Un homme passionné qui a fait vraiment plusieurs avancées là, en autisme au Québec. Par exemple, la formation Teach, la méthode d'enseignement Teach pour les enfants autistes, c'est grâce à lui qu'on l'a au Québec. Okay, il est allé se former aux États-Unis, il a amené ça ici. Alors, on voulait garder son nom en mémoire. Mm-hmm. Et en même temps, on avait créé le prix de chapeau. Peterswack pour le travail, Gilbert Leroux pour le scolaire, puis on voulait un prix qui reconnaît des projets là, dans un contexte qui favorise l'intégration sociale mm-hmm. d'une personne autiste. Alors on a créé le coup de chapeau et l'an passé, pour le 40e anniversaire de la Fédération, on a créé le prix Michel Francard qui rend hommage à une personne autiste là, qui se démarque.
Oui.
Et l'hommage à l'innovation pour des projets novateurs, ça peut être de la recherche, ça peut être un nouveau programme, etc.
OK. Alors, parlez-nous un petit peu de ce qui s'est passé, par exemple, dans ce prix coup de chapeau, les élèves de la classe TSA de l'École Notre-Dame. Ça, c'est un projet musical, je pense, hein?
Oui, effectivement. Attendez un petit peu,
c'est Diane Blais, je pense.
Oui, exactement. Alors, attendez un petit peu.
Est-ce que je vous ai troublé?
Non, pas du tout. Je mélangeais. Quand c'est une école, j'ai tendance à penser que c'est le prix Gilbert Leroux.
Ah.
Donc, c'est le coup de chapeau. Effectivement, là, avec leur professeur, c'est une classe de TSA à l'École uh-huh. Notre-Dame. Uh-huh. Ils ont composé une chanson. Ils ont inventé les paroles. Ils ont longuement répété cette chanson-là. Et ils ont présenté leur travail lors du spectacle de l'école et sur YouTube. Avec YouTube, hein, on peut élargir.
Mais oui, mais beaucoup. Faut qu'on l'ait, cette chanson-là. Donc, elle est sur YouTube, vous dites?
Oui. On a probablement le lien que je vous ferai suivre. Là.
Mon Dieu, que j'aurais voulu savoir ça plus tôt. On en aurait mis un petit extrait, chère madame.
Ben oui, ça aurait été bien. Alors, grâce à ce projet-là, les élèves se sont ouverts hein, au reste de l'école. Ils étaient plus épanouis. Puis, ils ont comme sensibilisé... leur père au niveau des élèves aux forces puis aux talents des personnes autistes.
Ah, formidable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix Gilbert Leroux, le Collège Montmorency et les membres du magazine Lunatique Autiste Collégial. De quoi s'agit-il?
Oui, alors, cette fois-là, c'était des étudiants autistes qui participaient au magazine Lunatique.
Mm-hmm.
Un petit clin d'œil au fait d'être autiste.
Mais oui.
Alors, ça paraît une fois par session.
Oui.
Ce projet-là leur permet de socialiser, hein, de participer à une activité oui. qui rejoint leur passion, puis d'améliorer surtout leur confiance en eux. Et de côtoyer d'autres personnes autistes, parce qu'on sait que l'autisme d'une personne à l'autre, c'est très, très différent. Mmh. Et de faire connaître par ce magazine-là ce qu'est l'autisme aussi.
Mais oui.
Donc, les gens voient qu'ils ont des forces.
Hein. Mais absolument.
Et ça développe leur autonomie, bien sûr. Puis ça les prépare au marché du travail parce que c'est des étapes, hein, faire un magazine.
Exactement.
On ne fait pas ça quand ça nous tente. Il faut le faire là, avec l'échéancier. Là.
Madame Joanne Lauzon, j'ai envie de vous poser une question. Si ça vous dérange, vous me le dites, d'accord. Mais c'est parce que j'ai ouvert cette émission en parlant, ben, en tout cas, non, je vais en parler un petit peu plus tard. Ça bouge beaucoup en Ontario par rapport à l'autisme. J'imagine que vous êtes très au courant.
Écoutez, j'ai vu ça passer cette semaine un peu, mais je ne me suis pas vraiment penchée sur la question.
D'accord, OK. Alors, c'est parce que je me demandais si ça bougeait plus là-bas que chez nous, mais que
ça
vous
bouge
étiez...
pas de la même façon.
Ça ne bouge pas de la même façon.
Non, d'accord. On ne travaille pas de la même façon. T'sais, nous, on a des établissements ici, eux autres, c'est pas la même formule. C'est très, très différent. Donc, c'est très difficile à comparer l'un et l'autre parce que souvent, on voit des gros montants qui arrivent en Ontario, puis là, évidemment, on va avoir la même chose ici. Mais ils financent pas les mêmes choses. C'est pas aussi facile que ça.
Oui, je n'en doute pas une seconde, Joanne. Une dernière chose, M. Richard Leblanc, hématologue, qui a mené un long combat contre les préjugés et la discrimination sur son lieu de travail. C'est lui qui a obtenu l'hommage à la différence, l'hommage Michel Francoeur. C'est bien ça?
Oui. Écoutez, docteur Richard Leblanc, c'est quelqu'un que j'admire énormément.
Oui.
C'est un ancien professeur de mathématiques physiques. Il a un baccalauréat en physique. Il a un permis de pilote d'aéronef. Il a une maîtrise en aérospatiale. Il a un PhD en mathématiques et physique. Et il est hématologue. Depuis qu'il a reçu son diagnostic officiel, c'est en 2012, donc ça fait pas longtemps.
Okay.
Il a dû mener un long combat contre les préjugés et la discrimination sur son lieu de travail. Une personne autiste, c'est une personne, il est dans un milieu médical. Vous pouvez vous imaginer, hein, on sait que ça va pas toujours très bien. Dans
non, le... non, c'est pas toujours évident. Nulle part, remarquez, mon
favori. Une personne autiste va voir les difficultés, par exemple, qu'il y a dans un milieu de travail, et elle va dire, ben écoutez, il faudrait faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on sait que ça se change pas comme ça, les façons de faire.
Non, c'est ça.
Donc, il se mettait plein de gens à dos. C'était très, 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 très difficile pour lui. Il était... je pense, entre 2 et 4 ans sans travailler, là, être obligé de prendre des mesures. Puis c'est Maître Ménard, finalement, qui est toutes ces causes-là, Maître Ménard est
oui, bien sûr, ben oui, qui est un habitué de mon émission, mais vous me donnez très envie de faire un peu plus connaissance avec M. Leblanc.
Docteur Leblanc, c'est vraiment quelqu'un d'absolument passionnant.
Bon, eh bien, voilà, vous me donnez vraiment envie d'aller à la rencontre de ce monsieur Leblanc, Richard Leblanc, hématologue. C'est toujours passionnant de parler avec vous, Joanne. Vous nous apprenez toujours plein de choses. Alors, on vous remercie encore une fois d'avoir participé au Par Actualité. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme et que, ben, qu'on va se reparler peut-être même cet été parce que il y aura une autre émission qui va rentrer, que je vais animer et on aura certainement l'occasion de se reparler.
Bien, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, Joanne Lauzon. Bonne journée. Au revoir. Alors, le voici, ce nouveau programme plus adapté aux besoins des jeunes autistes en Ontario. C'est d'après un papier sorti sur le site d'ici-radio-canada.ca. Le gouvernement ontarien a lancé jeudi son nouveau programme pour tous les enfants et jeunes atteints d'autisme. Il devrait être accueilli beaucoup plus favorablement que la précédente réforme qui avait donné lieu à des manifestations de parents et mené non seulement au remplacement du ministre responsable, mais à une volte-face du gouvernement. Il y a 3 semaines, la province avait dévoilé certaines modalités du programme, notamment le fait que les familles auraient le choix d'utiliser des services publics ou de recevoir de l'argent pour payer des services de thérapie privée. L'intervention comportementale intensive, ne sera pas réservée aux enfants de moins de 5 ans, un élément de la précédente réforme qui avait provoqué la colère de nombreux parents. Des centaines d'enfants dont les noms étaient sur des listes d'attente depuis 2 ou 3 ans n'étaient tout à coup plus admissible. Autre changement important, tous les enfants qui en ont besoin pourront avoir accès au service d'intervention comportementale. Le sérieux du cas lorsque l'enfant a reçu son diagnostic ne sera plus un critère déterminant. C'est une différence énorme, indique Bruce McIntosh de la coalition ontarienne de l'autisme. On estime que 40 000 enfants et adolescents ontariens souffrent des troubles du spectre de l'autisme. Le nouveau programme doit commencer le 26 juin et s'appliquer dans son intégralité d'ici le printemps prochain. Son coût est évalué à 533 millions de dollars. À l'étranger, nous sommes à Avranches, en France, où on nous annonce une avancée dans l'étude sur la dégénérescence visuelle. Le chirurgien ophtalmologiste Walid Michel Haddad de la polyclinique de la baie à Avranches a publié une étude majeure sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la fameuse DMLA, dans la prestigieuse revue scientifique américaine Retina. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, est une maladie qui se compte parmi les causes majeures de perte visuelle dans le monde. Depuis une dizaine d'années, un traitement concerne la forme la plus agressive de la DMLA, la forme humide. Il est administré par des injections dans l'œil et permet d'éviter, dans 90% des cas, une perte sévère de la vue, mais aussi d'améliorer la vision dans 40% des cas. L'étude du chirurgien Haddad a consisté en une analyse, le plus long suivi disponible pour l'instant, soit 10 ans, de l'évolution à très long terme des yeux traités par ces injections. C'est donc un record international. Ce suivi a permis d'observer que l'efficacité du traitement se maintient à très long terme, jusqu'à presque 10 ans, à condition de maintenir un suivi régulier et de répéter les injections aussi souvent que nécessaire selon l'activité de la maladie. Certains patients bénéficient également de longues rémissions avec une bonne acuité visuelle dans certains sans besoin de traitement. L'étude a aussi permis de découvrir que la fréquence de ces longues rémissions augmente avec le temps, ce qui est tout à fait nouveau. Enfin, il apparaît que certaines formes humides régressent avec beaucoup moins d'injections. Ce résultat est important car il aide à fixer le rythme de suivi et de traitement pendant plusieurs années et peut éviter certains contrôles et traitements non indispensables, a commenté le docteur Haddad. Joignez-vous au comité de sensibilisation du RAM. L'équipe du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain invite ses membres à se joindre au comité de sensibilisation. Le mandat de ce comité est d'organiser une action ou une activité dans le cadre de la semaine de la canne blanche. La prochaine semaine de la canne blanche aura lieu du 4 au 10 février 2018. Les bénévoles du RAM sont aussi les bienvenus au sein du comité. C'est grâce au comité de sensibilisation que la série de capsules vidéo non-voyants mais pas invisibles a été notamment produite en 2016 et que le dépliant de sensibilisation « Une canne pour voir » a été distribué en 2017. Qui sait quel sera le fruit de ce comité en 2018? Alors venez partager vos idées, même les plus farfelues, pour la conception de la prochaine action. On peut s'inscrire dès maintenant en contactant Christine Letendre par courriel à Cletendre, C-L-E-T-E-N-D-R-E, @ram, avec deux A et deux M.org, ou encore par téléphone au 514-277-4401, poste 107. 514-277-4401, poste 107. C'était les Paractualités. Merci beaucoup de les avoir suivis. C'était Clotilde Seille et son équipe qui vous souhaite une belle journée. À demain, 11h30.